écoutez Radio Campus Lille, 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. L'émission Quoi de Neuf, c'est tous les mercredis entre 16h et 18h. Voilà, pour cette nouvelle séquence, eh bien, j'ai invité Laure Rousseau, qui est chaque année, depuis quelques années, la représentante exclusive pour Radio Campus de La Rose des Vents, la scène nationale de Villeneuve-d'Ascq. Et je suis toujours heureux, Laure, de t'accueillir à cette antenne.
Je suis toujours très heureuse de venir, merci beaucoup.
Ouais. Donc, c'est vrai qu'au fil du temps, bien, tu présentes les nouvelles saisons et les évolutions de cette fabuleuse maison. Hein. Tu sais que j'ai été dans le conseil d'administration pendant peut-être 15 ou 20 ans quand même. Hein, de
ah
la
oui,
Rose des
Vents. Je ne savais pas.
Ouais, bah voilà, j'en ai gardé très bons souvenirs parce que voir de l'intérieur comment s'organise une programmation d'une scène nationale avec ses caractéristiques qui est d'être a priori une association avec quand même des représentants, des partenaires, on est ça comme ça, hein, de la municipalité, la DRAC, etc. Donc ça montre un peu comment à l'échelle plus que régionale, puisque c'est une scène nationale, on développe un projet dans la durée et avec des caractéristiques propres.
Tout à fait.
Alors, La Rose des Vents, s'il fallait présenter ses caractéristiques propres, c'est-à-dire son cœur, l'esprit qui l'anime, comment on pourrait donner un peu les éléments? Une scène ouverte sur l'étranger aussi, avec la présence notamment de la Belgique, qui crée des passerelles et des influences.
Alors oui, forcément, il y a notre situation géographique qui se joue beaucoup, puisqu'on est vraiment sur un territoire transfrontalier. Dans l'histoire de La Rose des Vents, donc il y a eu une programmation très tournée sur l'international, sur la Belgique. Ça a été le cas pendant longtemps, avec notamment des chorégraphes flamands.
Ah oui.
Qui ont été découverts, un festival qui s'appelait Scènes étrangères, mmh. Et le projet a évolué, et depuis 18 ans maintenant, parce que c'est la 18e édition, on a aussi donc le festival Next, qui est vraiment le temps fort qu'on organise avec d'autres structures françaises et belges, puisqu'on est vraiment sur le territoire transfrontalier, avec une programmation vraiment internationale. Donc là, c'est vraiment le temps fort qui est dédié, ce qui n'empêche qu'aussi, tout au long de la saison, on va retrouver des artistes qui viennent du monde entier, et on va retrouver toujours ces liens très forts avec la Belgique, notamment avec la Maison de la Culture de Tournai, avec qui on fait beaucoup de partenariats.
Alors, je crois savoir qu'il y aura une présentation du Next Festival le 26 septembre.
Voilà, parce que au moment de la sortie de la brochure de saison à l'été, on commence à dévoiler certains spectacles qu'on proposera dans le cadre du Next Festival. Mais on aime bien à la rentrée prendre un vrai temps avec les publics pour venir leur présenter l'entièreté de la programmation. Parce qu'on est sur un mois à peu près de festival, donc on est sur une programmation très riche. Et là, on dévoilera vraiment l'entièreté du programme de cette 18e édition. Donc on donne rendez-vous aux gens le vendredi 26 septembre à 19h. Ça se passera au Bazar Saint-Saul à Lille, puisqu'on n'a pas encore retrouvé notre théâtre, mais ça va se faire dans quelques mois. Mmh. Pour l'instant, on est encore accueillis à droite, à gauche. Donc là, ce sera de nouveau au Bazar Saint-Saul. Et voilà, ce sera l'occasion de découvrir tout ce que vous réserve cette nouvelle édition de Next.
Donc ça fait plusieurs années que le Next se présente du Bazar Saint-Saul. Hein.
Alors oui, que la présentation de la programmation se fait au Bazar Saint-Saul. C'est vrai qu'on a fait des présentations de saison aussi, on a fait des présentations Next, on y a fait nous des formations aussi pour l'équipe, c'était devenu un endroit qui pouvait nous accueillir facilement.
Voilà, c'est vrai que c'est un lieu qui est, on va dire, assez pratique parce qu'il y a des espaces un peu multiples, on peut les utiliser, enfin, si on demande d'autorisation.
Oui.
De manière un peu différente, décalée. C'est un peu atypique par rapport à d'autres lieux.
Oui, c'est un endroit qu'on trouve assez chaleureux. Et effectivement, il y a différents espaces. Alors, pour des présentations comme celle-là qui sont ouvertes à un large public, on peut bénéficier vraiment de la grande salle, qui a en plus un espace bar, donc qui permet une grande convivialité. Et puis, il y a des salles aussi un peu plus intimistes. Donc, c'est vraiment très pratique d'avoir tous ces espaces un peu à géométrie variable, en plein cœur de Lille en plus.
Alors, bien sûr, on va parler de la scène nationale, mais aussi des murs de la scène nationale qui sont pratiquement terminés en rénovation. Ça y est, on y est bientôt ?
Ah oui, on y est presque, puisque il y a quand même eu donc là 4 ans de travaux, 4 ans où la programmation a continué à se déployer, mais hors les murs. Mmh. Et là, le chantier a vraiment vraiment bien avancé. Il y a eu un moment assez magique où en plus ils ont la façade qui est ornée donc du sourire de Nadia, qui est cette œuvre de Béatrice Casadesus,
qui est protégée, hein, les.
Bien sûr, mais qui effectivement avait subi un peu les affres du temps, et ben elle a été entièrement repeinte. Et ça y est, d'avoir aussi cette façade qui a retrouvé tout son éclat, tout l'extérieur, vraiment, on perçoit très bien les différents espaces. Donc ça prend forme. À l'intérieur, il y a encore des petites choses à terminer. C'est pour ça que le début de la saison, on le fait encore hors les murs, et le Next Festival également. Mais la réouverture est prévue début décembre. Voilà. De ce bâtiment.
Est-ce que là, ce week-end un peu particulier, c'est donc dans le cadre des Journées du Patrimoine, est-ce qu'on pourra jeter un petit œil sur le projet ?
Alors oui et non. C'était un petit peu tôt encore pour accueillir du public dans les murs, puisqu'on est encore en phase de chantier. Mais ce qu'on a proposé, on l'avait déjà proposé il y a 2 ans, ou plus exactement, c'est la ville de Villeneuve-d'Ascq qui le propose, et puis on vient intervenir dans ce cadre-là. C'est d'en fait avoir une présentation du projet de réhabilitation, puisque ça a été un grand projet de travaux, puisque ça a duré 4 ans, et d'avoir une présentation donc en présence des architectes, en présence de personnes de la ville, en présence d'Audrey Hardier, qui est la directrice actuelle de La Rose des Vents. Donc on se mettra dans l'immeuble Mercury, donc c'est un immeuble de la ville qui est juste en face du chantier, donc on a vraiment une vue plongeante sur le bâtiment de La Rose des Vents, et là on viendra en fait expliquer ce que c'est que ce projet de réhabilitation. On montrera des photos, des vidéos, des moments du chantier, mais c'est encore une présentation, je dirais, un peu à distance, tant qu'on ne peut pas entrer complètement dans les murs.
J'ai eu l'occasion d'accueillir Gérard Caudron, hein, le maire de Villeneuve-d'Ascq, pour présenter l'histoire de Villeneuve-d'Ascq ici à cette antenne, et je trouve ça intéressant qu'il évoque la construction de la ville, notamment La Rose des Vents, mais aussi tout l'espace médiathèque, etc., qui constitue un ensemble assez cohérent et original par l'architecture aussi.
Oui, bah ce qui est très intéressant dans l'histoire de Villeneuve-d'Ascq, parce que là on la voit avec nos yeux d'aujourd'hui, donc avec une ville qui est quand même très très dense, très très étendue, mais on a retrouvé des photos d'archives justement du moment où la Rose des Vents s'est construite, donc dans les années 70, la construction a démarré en 1974, et en fait il y avait que des champs à cet endroit-là, c'était vraiment assez désert, et finalement le théâtre a été un des premiers bâtiments de la ville nouvelle à être construit. Et quand on s'est replongé dans cette histoire, c'est vrai qu'on a trouvé que c'était très fort symboliquement que l'un des premiers bâtiments à être construit dans une ville nouvelle, ce soit un théâtre. C'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment vraiment beau, et effectivement maintenant c'est une ville très culturelle. C'est vrai qu'il y a la médiathèque qui est je dirais qu'il est juste au-dessus de la Rose des Vents, puisque Villeneuve-d'Ascq a cette particularité dans le quartier Hôtel de Ville d'avoir un peu 2 niveaux, ce qu'on appelle la chaussée haute. Mm-hmm. Donc c'est là que se trouve la médiathèque, et puis une entrée aussi par la rue en dessous, donc il y a comme ça différents niveaux, et de la culture à tous les étages du coup.
Ben voilà. Donc depuis la création de la Rose des Vents, j'ai eu l'occasion d'accueillir ici le directeur du théâtre de l'époque, hein, qui était intégré à la Rose des Vents et qui a aussi permis à des comédiens de se faire connaître en région et plus qu'en région. Je pense qu'il y a eu, au moment de l'ouverture de la Rose des Vents, une programmation qui a vraiment secoué un petit peu le coin. Enfin, moi j'ai découvert sur place Hamlet de Shakespeare, c'était assez génial, quoi. Je veux dire, étonnant, une mise en scène extraordinaire. Et donc, voilà, j'en ai gardé un appétit qui ne s'est pas démenti. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette.
C'est effectivement un peu la magie du théâtre. C'est ce qu'on essaye de faire perdurer. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la programmation internationale. C'est vraiment un axe très fort de la scène nationale, mais c'est vrai qu'on a aussi une attention toute particulière avec les artistes qui viennent de la région, qui sont nos artistes locaux, et qui nous semblent aussi très importants d'accompagner. Donc on va retrouver aussi ça dans notre programmation, et le fait de retrouver notre théâtre, ça va vraiment permettre d'accentuer ce soutien aux artistes, puisque pendant les années de travaux, évidemment, on a continué à les soutenir. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la coproduction de spectacles, c'est-à-dire qu'on peut leur donner des enveloppes budgétaires, des choses comme ça, les soutenir financièrement, c'est une chose. Mais avec le théâtre, on pourra aussi leur apporter des espaces de création pour leurs futures pièces. Et ça, c'était très important. Et on retrouvera effectivement des artistes et des régionaux dans ces moments-là.
Voilà, donc c'était pas Hamlet, c'était Macbeth, ça y est. Et donc, c'est cette part de spectacles revisités, on va dire, qui font partie des grands répertoires et qu'on retrouve dans des mises en scène étonnantes, originales, somptueuses parfois ou dépouillées, c'est quand même l'intérêt de revisiter à chaque fois le répertoire, mais aussi là, en l'occurrence, d'amener des créations. Cette année, vous avez des gens qui vont créer pour La Rose des Vents ?
Alors oui, on aura plusieurs créations. Ça démarrera dès le mois de janvier avec la création du spectacle Kaddish de Margot Eskenazi de la compagnie Nova. Donc, c'est une artiste qu'on suit depuis un moment. On a déjà accueilli plusieurs de ses pièces et justement, ce sera l'une des premières à profiter de la Nouvelle Rose des Vents comme espace de répétition, puisqu'elle fera les dernières répétitions de son spectacle qui sera créé les 14 et 15 janvier à La Rose des Vents, dans la grande salle. Ce sera aussi le cas, donc je parlais d'artistes régionaux, et c'est vrai que j'avais en tête notamment la chorégraphe Mylène Benoît, qu'on va accompagner aussi cette année sur un projet qui nous a semblé vraiment très intéressant, puisque c'est une pièce qui est complètement inclusive, c'est-à-dire qui réfléchit à cette notion d'inclusion et d'accessibilité dès le moment de la production artistique, en fait. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut tendre. Nous, on travaille beaucoup sur l'accessibilité, mais on le fait beaucoup via des dispositifs pour rendre les spectacles accessibles. Mais c'est vrai qu'on franchit encore une étape supplémentaire en le réfléchissant dès le moment de la production du spectacle. Et c'est ce qu'a voulu faire Mylène Benoît. Et même chose, donc elle a commencé déjà à travailler dans d'autres salles, mais elle créera au mois de mai à La Rose des Vents, et elle aura juste avant un temps de résidence justement pour cela. Mmh.
Donc Mylène, qui m'envoie toujours ces informations depuis 15 ans maintenant, moins. Hein, ouais. Et donc, ce sont des projets à chaque fois, je veux dire, originaux, parce que où on mêle un peu, l'architecture d'une certaine manière. Ces pièces sont architecturées d'un point de vue visuel, c'est pensé, la musique, enfin, c'est pas des chansons comme ça, quoi. Je veux dire, il y a une ambiance, une création sonore à chaque fois, on retrouve des éléments très particuliers.
C'est ça, elle travaille. C'est vrai qu'on la classe en tant que chorégraphe, mais ça va même au-delà de ça, parce que il y a évidemment tout un travail autour du corps qui est très fort, mais effectivement, il y a aussi un travail très précis sur le son, un travail très précis sur la lumière, et là, ce sera d'autant plus visible dans cette pièce, donc qui s'appelle On dirait que le soleil, puisque l'idée, c'est justement d'être sur une pièce très sensorielle, c'est-à-dire que toute personne, même privée d'un de ses sens, aura quand même toujours quelque chose à découvrir dans cette pièce. Donc vraiment, il y aura un travail très, très minutieux, très délicat sur le son, sur la lumière et sur le mouvement des interprètes et effectivement sur l'espace, sur l'architecture de l'espace. C'est vraiment très juste.
Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait redonner les grands rendez-vous. Alors on a parlé un peu du Next Festival, qui donc est un festival qui se déroule dans plusieurs lieux de la région. À La Rose des Vents, ça démarrera quand ?
Alors, donc ça, c'est à La Rose des Vents, donc sans être dans le bâtiment de La Rose des Vents.
Rose des Vents.
Voilà, pour La Rose des Vents, on va encore rendre visite à nos amis roubaisiens. Sur le moment du Next, on fera l'ouverture, en fait, à la condition publique de Roubaix.
D'accord.
Donc le week-end du 8 et 9 novembre, avec un spectacle de danse à la condition publique. Donc on démarrera à ce moment-là à Roubaix. Ensuite, on organise aussi des navettes. Donc pour le 11 novembre, comme c'est férié, on peut en profiter pour aller se balader un peu en Belgique. Donc on emmène les gens à Courtrai pour deux spectacles au Buda et à l'Abbaye Courtrai, qui est en plus un nouveau musée, donc qui sera très sympa à découvrir. Ensuite, on retournera à Roubaix pour différents spectacles. On aura une soirée vraiment consacrée à l'Amérique du Sud, Amérique centrale, avec le spectacle Centro America, qui est d'une compagnie mexicaine. Et ensuite, on accueillera une metteuse en scène brésilienne avec Tapajos. Donc, ce sera vraiment une belle soirée aussi à ce moment-là théâtrale entre la condition publique et l'oiseau-mouche. Et on retournera encore à la condition publique avec de la danse, puisqu'ils ont vraiment ce grand plateau qui est assez merveilleux pour ça. Et puis évidemment aussi, donc, plein de rendez-vous en Belgique, au Phénix et à l'Espace Pasolini de Valenciennes, puisqu'ils sont aussi organisateurs du festival. Et le festival s'étend comme ça jusqu'au 29 novembre. Mmh. Et la clôture aura lieu au Phénix, justement à Valenciennes.
Alors, dans la programmation de ce festival, j'imagine que vous, en tant que partenaire, enfin associé, vous amenez aussi votre contribution en termes de programmation, de spectacle, vous défendez.
Alors, complètement, parce que justement, on est cinq organisateurs. C'est-à-dire que la Rose des Vents, elle programme au même titre que le Phénix, que l'Espace Pasolini, que le Buda Courtrai et que le Skogour Courtrai. Donc c'est vraiment, un des points très forts de ce festival, c'est que c'est une programmation collégiale. Il y a vraiment des réunions de programmation où chaque personne en charge de la programmation dans sa structure vient amener ses idées, ses envies, et la programmation se crée comme ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort sur ce festival, c'est qu'il est éminemment collectif et qu'ensuite, toute cette programmation, elle est justement portée et mise en avant par toutes les équipes, donc évidemment des cinq organisateurs, mais après on a aussi beaucoup de partenaires qui accueillent aussi des spectacles et qui viennent encore là aussi nourrir ce festival.
En plus, il y a toujours cette originalité, un peu comme à Douai, hein, d'avoir une scène nationale associée à un cinéma.
Oui.
Donc ça permet aussi d'amener une programmation cinéma qui soit un peu en phase avec quelques spectacles.
Oui, tout à fait. On a vraiment cette chance. Donc la scène nationale abrite aussi un cinéma, qui est le cinéma Le Méliès. Géographiquement, on n'est pas exactement à la même place, puisque Le Méliès est plutôt dans le quartier Triolo.
Pour l'instant, eux, ils ont une place.
Hein. Et voilà. Et donc, eux, ils ne sont pas en travaux. Donc, ils ont bien pu garder leur belle salle. Mmh. Et ce cinéma, il est extrêmement important, parce que sur la métropole lilloise, c'est vraiment le dernier cinéma complètement indépendant. Mmh. Donc forcément, c'est très, très, très précieux et il faut le garder.
On peut rappeler l'histoire. Hein. En fait, il y a en région des salles de cinéma classées A, R et C. Et donc, en principe, ces cinémas sont censés être quand même indépendants, hein, d'un point de vue structurel. Là, depuis, il y a quand même la mainmise de gros groupes cinéma, mais voilà, des grosses entreprises de cinéma qui ont capté, je ne sais pas comment ça s'est fait, sur La Rose des Vents. Donc Le Méliès, qui est, comme on l'a dit, un peu plus loin, au Triolo, hein, qui n'est pas loin de la cité scientifique d'ailleurs, hein, y a toujours eu cette volonté farouche de préserver, je ne vais pas dire de prédateur, c'est peut-être un gros mot, mais d'ambition différente.
Oui, en tout cas, de préserver, je pense que c'est un bon mot, de préserver la liberté de création, d'expression. C'est vraiment la possibilité d'aller voir des films qui sont peu diffusés ailleurs, en fait. On est vraiment sur des prises de parole assez originales, assez engagées. C'est un cinéma très engagé. Qui donne la parole effectivement à des créateurs ou des créatrices qui viennent de régions du monde, parce que là aussi c'est une programmation qui peut être très internationale, où les prises de parole sont très compliquées. Je pense notamment à l'Iran, puisque ce soir il y a un film iranien qui sera diffusé. C'est une parole qu'il est très important de faire entendre. Donc c'est vraiment très important d'avoir toujours ce cinéma. Et effectivement, il y a des liens et très forts qui sont avec la programmation de spectacles. Parce que déjà, on a cette envie commune de soutenir les artistes, de soutenir leur voix et de les faire entendre. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui se croisent. Et on s'en est rendu compte sur la programmation de cette année, où en plus, on accueille des metteuses en scène qui sont aussi cinéastes. Donc là, pour nos rendez-vous L'Œil du Méliès, qui est effectivement ces rendez-vous où un film est programmé en écho à un spectacle parce qu'il y a une thématique commune, par exemple, bah là, le lien était forcément tout trouvé, puisque c'est des artistes qui ont à la fois fait des œuvres théâtrales et cinématographiques sur un même sujet, et donc c'est l'occasion de les accueillir. Donc ça, ce sera notamment dans le Festival Next avec le spectacle Tapajos de la metteuse en scène brésilienne Gabriela da Cunha, qui donc a aussi fait un film qui s'appelle La Chute du Ciel. Donc les deux seront programmés, donc on pourra voir vraiment les deux, et elle sera en plus présente dans les deux cas, donc on pourra la rencontrer. Et ce sera le cas aussi en toute fin de saison avec les Latitudes Contemporaines, où on a le spectacle Faire parler les archives des non-alignés, et Mila Tullargic, qui est la metteuse en scène, avait également fait des films avant ça, elle avait fait un diptyque, donc on pourra également proposer le film en écho au spectacle. Elle sera là aussi présente.
Voilà, donc les premier spectacle de cette nouvelle saison 2025-2026 de La Rose des Vents. On pourra aller voir où et on pourra voir quoi?
Alors, donc le début de saison, là, on commence vraiment là dans quelques semaines. On démarre effectivement donc avec les Journées du Patrimoine pour parler du projet, avec la présentation Next, on en a parlé. Et ensuite, les spectacles vraiment à proprement parler, on démarrera à Villeneuve-d'Ascq, à la salle Masquelier, qui est une salle municipale, donc assez intimiste, avec L'Art d'avoir toujours raison, une pièce de théâtre. Ensuite, on ira pour le mois d'octobre du côté de la condition publique, puisqu'on a toujours en octobre une grande pièce de danse qu'on souhaite accueillir. Donc là, le plateau de la condition publique est idéal. Et on accueillera la pièce Rêve lucide de la compagnie Mazel Fretten, qu'on a pu découvrir pour la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. Voilà, grosse compagnie, électro, hip-hop, beaucoup de puissance et de beauté. Et on reviendra ensuite, juste avant les vacances scolaires, on a à ce moment-là toujours un rendez-vous jeune public. Et là, ce sera retour à la salle Masquelier de Villeneuve-d'Ascq, avec un ciné-concert pour les tout-petits, qui s'appelle Fuega. Qui sera avec des petits personnages comme ça, pareil, quelque chose de très intimiste pour les tout petits des 2 ans qui peuvent être assis sur des coussins au plus proche des artistes qui jouent de la musique en live. Donc ce sera très, très beau aussi.
Voilà, donc il y a des représentations scolaires, mais il y a aussi le mercredi où voilà, il n'y a pas d'école, hein, l'après-midi.
Voilà.
15h et 17h le 15 octobre.
Voilà, pour les familles aussi. Pour venir découvrir ce moment-là. Et puis donc voilà, donc le Next, on en a parlé, là on sera on naviguera un peu partout, mais nous on a aussi donc nos spectacles à Roubaix, à la condition publique et l'Oiseau Mouche. Et enfin, le grand moment de réouverture, donc ce sera début décembre. Là, on retrouvera notre théâtre. Ce sera l'occasion de découvrir la grande salle et la petite salle. Et là, on voulait le faire de façon assez festive. Donc on aura un premier week-end de festivités, le week-end des 6 et 7 décembre. Donc là, on est encore en train de peaufiner le programme, donc on pourra le dévoiler de façon plus précise dans le courant du mois d'octobre. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on voulait un grand bal. On voulait que les gens puissent découvrir la grande salle, mais en se l'appropriant et en venant danser avec nous pour fêter cette ouverture. Donc c'est un bal avec le chorégraphe Christian Hubel. Un bal des années 80 où il y aura des petites phrases chorégraphiques que la compagnie nous montrera et le public pourra danser. Il y aura des moments de danse aussi libres. Enfin voilà, ce sera la fête.
Réserver.
Alors c'est toujours mieux de réserver. Là, alors pour le programme en journée où on pourra découvrir la salle et qu'on dévoilera plus tard, ce sera en entrée libre. Et pour le bal, on a mis un tarif unique à 5 euros. Donc là, on peut réserver d'ores et déjà sa place.
C'est quel jour ?
C'est le samedi 6 décembre à 20h.
D'accord. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de laisser redémarrer cette saison et puis refaire un point quand tu le sens utile.
Ah bah avec plaisir. Et comme ça, on pourra dévoiler le programme plus précis.
Ben voilà. Merci beaucoup, donc, Laure Rousseau, de cette présentation. Et puis, bon vent à la Rose des Vents.
Merci.